Le commentaire de
Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
Et on retrouve Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve.
Salut, comment ça va?
Très bien. On commence par la commission scolaire English Montreal sur le fameux dossier de la loi 96. Tu trouves qu'il dérape?
Ben écoute, ce qu'on a entendu lundi soir, là, il y avait une rencontre, il y avait une conférence qui était organisée par le B'nai B'rith, eux-mêmes qui sont assez démontés contre la loi 96, on le sait. Et le commissaire de la commission scolaire English Montreal, Joe Artona, là, qui c'est pas la première fois qu'il qui se fend d'indignation contre cette loi-là, mais là, il est allé vraiment là, il était très en forme. Là. C'est une attaque directe envers la collectivité anglophone. La CAQ est plus hostile envers les Anglos que le PQ. Il disait, j'ai vécu, là, ça fait plus de 40 ans ici, j'ai vécu sous des gouvernements péquistes et libéraux, j'ai jamais vu une telle hostilité et tout ça. Et il a même un peu attaqué le PLQ, mais quand même tout le temps disant que la CAQ, c'est le pire de tout. Et il y avait là-bas aussi quelqu'un que tu connais bien, que le Québec connaît bien, c'est l'avocat Julius Gray. Et généralement, c'est quelqu'un que je trouve assez posé dans ses déclarations. Mais là, cette fois-ci, pour lui, et je le cite, un abus massif des libertés civiles et il disait aussi que ça, c'est la meilleure. L'Office québécois de la langue française aura plus de pouvoirs, aura des pouvoirs dont la police ne dispose même pas pour enquêter des meurtres, car on le sait, parler anglais, c'est pire qu'un meurtre. On est en train de déraper, mais quelque chose de concret. Et là, ces gens-là, là, faut pas oublier une chose, hein. Les commissions scolaires, ça n'existe plus dans le Québec francophone, mais les dispositions de la Constitution font en sorte que les anglophones au Québec avaient une protection et leur commission scolaire existe. Faut bien le dire aussi, ils votaient beaucoup plus aux élections scolaires, ouais. Si on veut. Puis c'est très important pour eux. Donc, le commissaire Joe Artona, il a une aura dans la collectivité anglophone, il a un poste important. Et que dire de Julius Gray, qui est quand même une des figures les plus importantes de cette collectivité-là. Et cette radicalisation-là du discours n'annonce rien de bon, parce que on le sait, il y a des partis politiques maintenant qui se forment un peu comme on l'avait vu à la fin des années 80 avec, on se souviendra du Parti Égalité, Equality Party. Et là, ben, on revient vers ça. C'est une très mauvaise nouvelle pour Dominique Anglade, qui longtemps jouit des appuis de cette collectivité-là de manière presque automatique. Là, c'est beaucoup moins sûr et on voit là que tout à coup, il y a des gens qui commencent à lorgner dans ce segment de l'électorat-là parce que plus ils vont se radicaliser, plus la tentation va être, comme on le voit dans d'autres segments de la société québécoise, de peut-être aller vers des partis plus marginaux.
Oui, et pour Dominique Anglade, c'est encore plus compliqué parce que pour elle, ça va devenir difficile à défendre quand on est rendu avec des gens qui sont dans les extrêmes, parce qu'elle va se faire confronter sur des propos puis elle va être obligée de faire, ben là, oui puis non, se démerder là-dedans.
Je vois mal comment elle va réussir à se placer là-dedans, parce que c'est une chose, là, on a vu des politiciens qui étaient capables de dire une chose en anglais au Québec ou au Canada, puis ensuite une chose en français. Mais là, en campagne électorale, ces gens-là vont être très, très suivis. Et bien entendu que ce sera difficile pour Dominique Anglade là, d'essayer de paraître comme la personne qui pourrait défendre le contre vents et marées la collectivité anglophone et un peu aussi essayer de se replacer à un semblant de nationalisme au Québec. Là, ces deux positions-là sont des écartèlements complets et ce ne sera pas possible pour elle d'y arriver.
Parlant des misères de Dominique Anglade, ça se poursuit quand elle a vu le journal ce matin, le sondage léger. En fait, sondage de misère pour tous les partis, sauf la CAQ qui gagne même encore des points. On comprend que pour les conservateurs, ça a plafonné, mais c'est en baisse. Dominique Anglade est au bas-fond. Peut-être un peu d'espoir pour Gabriel Nadeau-Dubois, qui dans certains sondages semble avoir un peu d'intérêt chez certains électeurs. Mais en gros, on se dirige vers un... Ben, on est encore tôt, là, mais c'est un raz-de-marée à qu'est-ce qui se poursuit.
Oui, mais avant toute chose, là, c'est drôle parce que je retournais dans mes notes, puis lundi, Abacus, une grosse firme de sondage au Canada anglais, annonçait des jours difficiles pour Justin Trudeau. On parle dans le léger de 54% d'approbation pour François Legault, c'est hallucinant. Ça se poursuit depuis 4 ans, en fait. Puis Justin Trudeau, lui, il est en ce moment à 30, laisse-moi qu'on va regarder les chiffres, on dit qu'il est à 34-33%, c'est moins 10 sur un an. d'approbation. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est la pire des choses pour Justin Trudeau. Il n'a pas réussi à surfer complètement sur l'espèce d'aura que les premiers ministres provinciaux et au fédéral ont eu. Lui, dans son cas, ça baisse. Et François Legault, ben, ce qu'on voit du moment des élections, c'est que lui, ça se comporte là, complètement. Donc, c'est quand même, il y a quelque chose là qui est vraiment... écoute, Jean-Marc Léger a dit qu'il n'avait jamais vu ça, mais d'autres sondeurs anglophones qui ont parlé de ce sondage-là, parce que les élections au Québec vont retenir l'attention, même au Canada, à partir de maintenant. J'en ai vu plusieurs, moi. Par exemple, Frank Graves, là, le PDG d'Ecos, qui dit, pour lui, c'est dans l'histoire de la politique provinciale canadienne, de toutes les provinces, il n'a jamais vu un premier ministre être capable de tenir un taux d'approbation aussi élevé pendant une période aussi longue.
Ouais, il faut dire qu'il y a eu quand même, ça a été une période particulière. Peut-être qu'on comprendra des choses de ça plus tard. Dans le cas d'Éric Duhaime, je vois que son spin, c'est toujours dire, ben c'est parce que pendant 2 ans, on n'a pas vu l'opposition. C'est pas faux, mais en même temps, on a vu tous les travers du gouvernement. On est passé à travers un paquet de mauvaises décisions et tout ça. Il y a des endroits dans le monde où les politiciens s'en sont pas sortis. Si on pense au Royaume-Uni, par exemple, dans le cas de Boris Johnson, il y a des places où la terre a tremblé pas mal plus qu'ici.
Oui, mais il y a une donnée qui est quand même inquiétante pour Éric Duhaime. Bon, premièrement, il perd des points. Les autres, ça a monté ou c'est resté stable. Mais surtout, c'est que Éric Duhaime, il n'est le deuxième choix que de 5% des électeurs. Son potentiel de croissance est court, pour ne pas dire inexistant. Pire encore, Éric Duhaime, en ce moment, quand on regarde, c'est vraiment le parti d'un gros enjeu. Et pour lui, son potentiel de croissance, c'est aussi beaucoup au fait qu'on va parler ou pas de cet enjeu-là. Et en ce moment, j'ai regardé les tendances. Depuis quelques jours, on voit que les tendances par rapport à la pandémie, ça va plutôt vers... ça va se régler là, juste à temps pour les élections.
Oui, mais on voyait aussi dans la question qui ferait la meilleure personne pour gérer une vague, là, une autre vague de la COVID. Il est à 7%. Là. Je pensais qu'il allait être plus fort là pour ceux qui sont fatigués de mesures. Mais donc, ça veut dire que même en cas de vague... Il semble pas avoir énormément d'intérêt sur les solutions du M à la COVID.
Ah non, pas du tout. Et puis, dans son cas, ce serait pas de mesure du tout. Je pense qu'il n'y a même pas de crédibilité auprès des gens qui sont prêts à voter pour lui. C'est un vote de protestation. Je vais revenir aussi sur une donnée qui est très qui est fondamentale. Le pourcentage des électeurs pour chaque parti dont le choix est définitif. Et là, dans ce cas-ci, on peut parler de Québec solidaire puis dire qu'il y a de l'encouragement. Mais moi, il y a des gens chez Québec solidaire qui m'ont dit qu'ils étaient extrêmement déçus de voir que leur parti, le choix définitif, sont très, très loin derrière les autres. Ils sont à 43%. Ça veut dire qu'il y a 57% des gens qui ont dit on va voter pour QS dans ce sondage-là, qui sont prêts quand même à changer puis aller vers quelque chose d'autre. Il n'y a pas un autre parti qui est en bas de 50%. Et quand on regarde du côté du Parti conservateur d'Éric Duhaime, c'est lui qui a le plus haut, par contre. Lui, il est à 72%, 67% pour la CAQ, là, c'est haut aussi. Mais les gens qui vont voter pour Éric Duhaime sont vraiment, c'est définitif, mais son potentiel de croissance est court parce que il n'est pas capable d'aller chercher beaucoup, là. Il n'est pas un choix attractif comme deuxième choix pour bien du monde. Fait que, tu sais, c'est des données, ça, dont je voulais parler parce que c'est ce genre de données-là qui va nous permettre de comprendre où est l'efficience du vote pour chacun des partis. Et c'était comme ça au fédéral et les données sont encore probantes pour le provincial. On va pouvoir s'en reparler.
Oui, on va s'en reparler, c'est sûr, parce que c'est quand même intéressant d'analyser ces chiffres-là. Steve, merci beaucoup. À demain.
Oui, salut, à demain.
Salut, à demain. Patrick Derry arrive dans quelques instants. Bon après-midi, on se retrouve demain et c'est Patrick Derry qui prend la relève dans quelques instants.